Maximus présente Podmax. Tu es créateur ou entrepreneur, c'est ton rendez-vous. Motivation, inspiration, interview, conseils et astuces, c'est maintenant.
Dans cet épisode, je suis encore une fois avec Mélanie. Mélanie, ouais, bienvenue.
Salut Maxou.
Dans cet épisode du Podmax, avec plaisir, nous allons parler d'un sujet que j'ai abordé dans un épisode précédent, qui était l'épisode 12, je crois, où je parlais des deux fondamentaux du business, Mélanie, qui était, pour moi en tout cas, dans cet épisode, développer ton chiffre d'affaires, donc le profit, et l'image de marque. Donc la marque, tout ton logo, ta tagline, le nom de ton entreprise, etc. Et donc du coup, c'est très intéressant parce que j'avais prévu dans le Trello un truc qui s'appelle, que j'ai appelé l'importance de la marque, pour qu'on fasse un épisode là-dessus ensemble. Et du coup, j'ai une fiche de notes et on va te parler de ça aujourd'hui, à toi public, avec Mélanie, puisque Mélanie, c'est un petit peu sa zone de compétence maximum, parce qu'elle a fait ça depuis très longtemps, de construire des marques. Et du coup, Mélanie, est-ce que tu veux commencer avec un petit laïus sur ce truc-là ou pas ?
En fait, moi, dans mon approche, depuis toujours, en fait, je pense qu'une marque, quelque part, c'est la construction d'une marque, c'est la représentation physique de l'entité morale. Alors, ça fait toujours un petit peu flipper, mais en gros...
Bonjour Mélanie Avocat.
En gros, quand on crée une boîte, quand on crée une entreprise, sur le papier, on écrit, donc on crée une entité morale. Et ce qui nous distingue, donc en tant que personne, nous on a une carte d'identité par exemple, avec une photo, un nom, un prénom, une adresse, un lieu de naissance,
personne,
etc.
Personne physique du coup.
Personne physique. Et en fait, moi je me dis, une marque, une entreprise qui devient morale, on doit lui créer en fait ce background que l'on crée pour une propre, pour une personne physique.
C'est la façon
fait.
Dont tu t'habilles quoi.
Voilà. Et donc du coup, alors on va lui donner effectivement un nom, on va lui donner un lieu de naissance, on va lui donner une histoire, on va lui donner une image, alors une photo de profil qui va être finalement le logo en réalité. Et on va essayer de l'habiller. Moi j'avais écrit une méthode qui s'appelait la silhouette, que j'ai co-écrit avec Julie Goiset. Et la silhouette en fait, c'est, on imagine, on projette en fait pour son entreprise une personne. Et on va essayer de lui donner, de l'habiller. Et chaque partie en fait de cette personne-là, une fois qu'elle est habillée, représente la marque.
On va étendre un petit peu sur l'épisode que j'ai déjà fait la dernière fois. Qu'est-ce qui vient en premier ? Tu crées ton entreprise, on va s'adresser à tous ceux qui sont dans le programme cette année, qui ont déjà leur entreprise ou qui ont déjà une micro-entreprise ou qui démarrent en tout cas, qui ne sont pas comme toi, qui n'ont pas dirigé leur agence vidéo depuis je ne sais pas combien d'années, vraiment qui sont dans les premières étapes ou alors qui sont en train de se rediriger peut-être. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important ? Est-ce que c'est de faire rentrer de la thune ? Ou est-ce que c'est de travailler sur ton logo, de créer ta marque, etc., etc. Qu'est-ce que toi, tu ferais passer en premier ?
Il faut, à mon sens, forcément, je ne veux pas dire l'inverse, il faut travailler les deux simultanément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... si on se focus sur faire rentrer de l'argent, c'est bien, c'est important, c'est vital, on est d'accord. Mais on ne construit rien, en fait. Ça fait partie des fondations solides, l'image, en fait. À chaque fois qu'on a une interaction avec quelqu'un, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on a l'opportunité de lui dire « ma boîte, c'est ça », et de lui tendre une carte de visite, à minima, par exemple, ou de lui envoyer un mail, c'est tout autant de choses, en fait, qui permettent de se faire connaître. Et comme dans la vraie vie, encore une fois, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et donc, on ne peut pas construire solidement une entreprise si on ne fait pas attention à certains éléments de sa marque. Donc évidemment, pas prendre l'extrême aussi, comme j'en vois beaucoup, des gens qui dépensent tout leur budget dans leur site web, tout leur budget dans leur branding, mais zéro client. Donc ça, c'est aussi, c'est pas bon non plus, quoi. Mais en fait, on pourrait imaginer peut-être d'avancer par strat. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rentre des clients, on investit un petit peu dans son image et dans sa communication, et petit à petit, par palier. Pour moi, il y a un socle de base, c'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels il faut être présent et qui sont un petit peu incontournables. Il faut être là où les autres sont, c'est important si on veut être positionné vis-à-vis de sa concurrence. Et après, le Graal, c'est à partir du moment où on va commencer à travailler pour être là où les autres ne sont pas encore. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se démarquer. Mais avant de pouvoir se démarquer et sortir de l'eau, il faut un petit peu asseoir sa notoriété sur des basiques, en fait, des choses qui sont un peu incontournables. Et oui, aujourd'hui, la carte de visite reste encore incontournable.
Elle reste incontournable, mais là où je trouve ça intéressant, et tu as dit positionner, et je pense que c'est la clé dans cette réflexion, c'est que ta marque, c'est ce qui vient participer à ton positionnement, parce que ton positionnement, il est avant tout par rapport à ton offre, par rapport à ce que tu vas vendre, à qui tu vas le vendre, ton avatar client, etc. mais il est aussi, par définition, fortement appuyé sur ta marque parce que c'est un petit peu un levier long terme. C'est-à-dire que si Nike, aujourd'hui, n'avait pas travaillé sur le logo, n'avait pas fait tout ce qu'ils ont fait, et encore, c'est un très mauvais exemple parce que c'est beaucoup trop gros pour que ce soit un exemple viable, mais si aujourd'hui, ils avaient dit « on vend que des chaussures et on s'en fout de à quoi elles ressemblent », d'avoir un design qui correspond toujours un petit peu près à notre style, d'avoir notre logo tout le temps dessus, s'ils n'en avaient rien à foutre, ils n'auraient pas pu construire ce qu'ils ont construit aujourd'hui. Donc au final, ton positionnement stratégique et la partie business pure, rapporter du cash et rapporter la police, ça, ils vont venir nous arrêter. Ok, la police est passée, c'est bon les amis.
T'as dit Nike et t'as pas payé des royalties.
J'ai pas payé de royalties. Mais donc du coup, le fait d'avoir ton positionnement qui est aussi bien stratégique et commercial et pur business chiffre argent, bien sûr avec le bénéfice client et tout, le fait d'avoir ça sans une marque, potentiellement, tu vas avoir quelque chose de plus court terme, ou en tout cas, tu ne profites pas du levier maximum d'avoir une image et d'avoir de quoi projeter vers le monde. Et donc, du coup, de passer à l'étape supérieure.
Et puis, on a des bons exemples ces dernières années. Alors, ils reviennent souvent sur le tapis, mais par exemple, le slip français, j'en parle souvent parce que c'est un bon exemple. Objectivement, on part d'un principe. Le slip, c'était quand même un produit qui n'est pas franchement sexy, c'est un truc qui existe depuis des années, c'était même ringard, hein, objectivement. Le produit en lui-même, c'était un produit qui était standard. C'est l'image qu'ils ont construit autour du produit, c'est l'histoire, le fait de le fabriquer en France, le fait de faire des publicités absolument originales et décalées, qui ont fait en fait la force de frappe de la marque, qui a fait que derrière la communauté s'est emballée au projet, que les gens ont été séduits. Et donc du coup, une fois qu'on crée en fait cette mécanique d'identification et ce process d'attraction en fait d'un client, c'est ce qui est le plus dur en fait, c'est le coût d'acquisition, on dit toujours. Et à partir du moment où les gens sont séduits en fait, on peut jobber et pour les garder en fait. Alors que quand on est dans une démarche d'une marque ou d'une entreprise qui fait que du prix, qui vend que du prix, alors à titre personnel, moi, ça m'embêterait qu'on vienne chez moi que pour le prix. Je trouve ça un petit peu dévalorisant parce que je me dis si demain quelqu'un il fait moins cher que moi, donc il ira voir à côté. Je pense que construire une stratégie uniquement autour du prix, c'est quelque chose. Voilà, il y a aussi des belles histoires. Tu prends des C-discounts, des machins comme ça, etc. Et tout, c'est des vendeurs de prix. Mais on n'y va que pour ça de toute façon.
Non, mais c'est comme Amazon. C'est hyper concurrençable. Hein, si tu es positionné qu'avec ton prix, c'est hyper concurrençable. Et c'est surtout une stratégie qui est hyper court terme parce que c'est ce qu'utilise Amazon et c'est ce qu'ils utilisent encore aujourd'hui, c'est pour faire de la pénétration ou tout simplement tu viens, tu casses le marché, une fois que tu es dedans tu peux mettre les prix que tu veux parce qu'il n'y a que toi, ce qui est une très bonne stratégie. Mais si on regarde bien Amazon, et on va sur un sujet qui n'est plus tellement la marque, mais si on regarde bien Amazon, la raison pour laquelle on l'utilise tous principalement, c'est pour la facilité plus que pour le prix, très souvent.
C'est la rapidité, c'est les services associés, c'est la livraison qui est ultra rapide, tout un tas de choses comme ça. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la marque, elle est vraiment capitale de la travailler au plus tôt. Et ce n'est pas réservé non plus à des boîtes qui ont une ambition de dingue. Quel que soit son niveau, en fait, quelle que soit l'échelle en fait, de sa boîte, je pense que c'est important de le faire. Et l'exercice le plus simple, c'est de se dire, si demain, je devais être contraint, obligé, je ne sais pas, à porter tous les jours un même t-shirt, par exemple, est-ce que je serais fier de porter le t-shirt avec mon logo dessus? Est-ce qu'il me ressemble?
Ouais.
Et l'autre erreur aussi que je vois souvent, c'est que les gens veulent absolument plaire. C'est basique, hein, on veut plaire à tout le monde. Alors, on veut plaire à tout le monde, etc. Et tout. Et donc, on veut toujours faire quelque chose qui va plaire à un maximum de monde. Il ne faut pas oublier au départ qu'il faut que vous vous reconnaissiez en fait dans votre emblème. C'est un peu comme un fanion, c'est un peu, on est censé partir dans une équipe avec ça en fait, et on va l'emporter avec nous. Et je dis souvent cette phrase-là, vous n'êtes pas la cible de votre produit. Ce n'est pas vous qui êtes la cible de votre produit. C'est-à-dire que si vous vendez des couches, vous n'êtes pas forcément consommateur de couches, parce que d'abord vous n'êtes pas le bébé final, et peut-être que vous n'avez pas d'enfant, etc. à ce moment-là. N'empêche, ce n'est pas parce que c'est pas vous la cible de votre produit que vous devez pas kiffer en fait votre marque et l'histoire qui va avec.
Ouais.
Et raconter une histoire, réécrire une histoire, ça veut pas dire mentir aux gens, ça veut dire simplement être capable de trouver dans l'histoire, dans votre histoire personnelle, dans votre parcours, des choses qui peuvent non seulement expliquer la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui à faire ce métier-là, mais également des choses qui vont pouvoir donner en fait une porte d'entrée à la discussion et à la conversation. Dans la rue, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est pas de lui demander son CV ou sa carte d'identité. Mmh. En général, on lui demande « Ah ben, t'aimes la musique ? Ah ouais, t'écoutes quoi ? Ah ouais, moi aussi j'écoute ça, je suis allé à tel concert, machin. » Il faut donner en fait dans son histoire, et ça va avec la marque, puisque la marque, le logo est associé aussi à l'histoire, au storytelling, tout ce qu'on va dire autour. Il faut, je pense, être un petit peu plus ouvert et donner un peu plus de soi pour donner la possibilité à quelqu'un en face d'avoir un coup de cœur et d'accrocher à votre personnalité, à la personnalité morale, hein, je rappelle, hein, de l'entreprise, en se disant « Ah ben moi j'aime bien leurs valeurs, j'aime bien leur histoire. Ah ben c'est cocasse quand même quand je pense qu'ils ont démarré dans le grenier au-dessus. Enfin, vous voyez, des choses comme ça en fait qui vont faire que les gens vont se dire « Ah ben ouais, ben si un jour j'ai le choix entre acheter chez eux ou ailleurs, peut-être que je vais le choisir lui parce que finalement son histoire elle me parle, elle me rappelle quelque chose. »
Si on refocus sur les personnes qui débutent, je pense que c'est, il y a un truc qui est fondamental et qui est genre hyper important, c'est de comprendre que tu peux développer ton business avec, pour moi la première valeur c'est de simplement de faire rentrer du cash, parce que sinon ton business il meurt, et tu peux à chaque étape, au moment où tu fais rentrer du cash, au moment où tu travailles des choses, rajouter ce petit plus où tu vas réfléchir, où tu vas te poser une question en plus quand tu vas savoir te dire est-ce que je fais un site, est-ce que je fais ci, toutes les questions que tu te poses quand tu crées ton business, tu peux rajouter une question et te dire ok, comment ça sert à ma marque, comment j'appuie et je montre mon image à travers ça, et comment à chaque étape, je prends un petit peu de mon temps et un petit peu de mon budget si j'ai les moyens pour travailler et faire grossir ma marque. Je pense que c'est la bonne solution plutôt que comme tu, enfin, plutôt que comme tu disais pas de faire l'un ou l'autre, mais vraiment pour faire les deux qui avancent en même temps. En fait.
C'est des strates qu'il faut avancer ensemble. Après, on a des exemples totalement inverses et qui ont bien fonctionné. On a vu des choses aux États-Unis, des gens qui ont par exemple investi 100 000 $ dans le marketing, alors que le produit n'existait pas.
Ouais.
Mais encore une fois, on est sur des... Là, si on s'adresse vraiment aux gens qui lancent leur entreprise, des
freelances,
indépendants, etc. et tout, bah, il faut la construire. Et en fait, moi, j'ai toujours un petit peu fonctionné comme ça. Je me dis, bon, bah, voilà, je rentre de l'argent parce que c'est capital. Mais ce que je peux faire aussi, c'est me dire que systématiquement, sur chaque rentrée, je reverse 10% ou 20% pour un projet communicant ou lié au développement de la marque. Après aussi, je trouve ça vachement bien qu'aujourd'hui, il y ait des outils qui permettent notamment de pouvoir créer son logo soi-même, des générateurs de logos, etc. et tout. Après, moi, j'ai une valeur, et ce qui s'appelle la valeur temps. Pour moi, le temps, enfin, quand je comprends maintenant, tard, mais je comprends ce que ça veut dire, le temps, c'est de l'argent. Passer 4 heures, 10 heures, 20 heures à faire un logo vous-même pour vous dire bah, c'est moi qui l'ai fait, c'est bien. S'il y en a qui veulent le faire, il n'y a pas de souci. En même temps, si vous pouvez utiliser ces 20 heures-là à faire quelque chose qui va vous ramener du cash et payer quelqu'un qui va le faire lui peut-être en 2 heures ou en 3 heures. Alors là, je prends des extrêmes parce que c'est pas du tout le temps qu'il faut pour faire des logos, ça dépend bien. Voilà, il faut juste placer les priorités. Alors je comprends bien quand on me dit mais moi j'ai pas énormément de budget, je me lance, etc. et tout. Bah mets-le le budget dans
ce que tu rentres. Oui, ou fais un logo temporaire.
Fais un logo temporaire, mais ne passe pas 20 heures à le faire.
De toute façon, en fait, là où c'est intéressant, c'est que moi je suis en train de créer un nouveau business avec des associés et on a fait le logo en 10 minutes et c'est un logo pété. Mais quand on va rentrer les premiers 100 000 euros, on va se prendre un graphiste qui tue, et là on aura un logo qui tue. Et d'ici là, le nom n'aura pas changé, on va juste réorganiser un peu le logo, juste faire un truc un peu mieux, et les clients n'auront rien à foutre puisqu'on est focus sur servir les clients et leur apporter ce qu'ils désirent.
Voilà, non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que passer 20 heures à faire un petit logo qui de toute façon ne sera pas forcément, si ce n'est pas votre métier, ce ne sera pas forcément nickel, donc vous serez forcément déçu.
Puis tu n'as pas l'avantage d'un vrai graphiste surtout.
Voilà, le regard extérieur, et puis si en plus bah, vous y mettez trop du cœur dedans, si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas joli, vous risquez d'être un petit peu vexé. Et à l'inverse, dépenser une fortune, parce qu'il y a aussi des gens que ça rassure, ils pensent que parce qu'ils vont payer leur logo 10 000 balles, le logo sera meilleur. Non, on redescend les pieds sur terre. Et simplement, quand je dis si vous n'avez pas le budget, bah, prenez-le. C'est-à-dire que bah, justement, ce n'est pas en y passant 20 heures que vous allez trouver le budget. Ouais. Passez-les à trouver des clients pendant 20 heures et gardez un petit peu de budget pour le faire à quelqu'un dont c'est le métier.
Ça, c'est ce que je disais dans l'épisode. J'ai fait un épisode, je ne sais plus lequel c'est, où justement, je parlais de je prenais l'exemple du jet privé pour montrer à quel point le temps, c'est de l'argent, c'est de la connerie très souvent. C'est un sujet dont je parle souvent avec mon frère, mais j'en parle dans un épisode précédent qui s'appelle « Le temps ou l'argent », je crois. Et du coup, voilà, j'expliquais le fait justement, je sais pas si tu l'as pas écouté parce que je l'ai pas encore sorti, mais le fait que ben, quand tu prends un jet privé, c'est bien, tu peux potentiellement gagner de l'argent, mais le problème c'est que l'argent que tu as donné pour racheter les heures que tu veux plus perdre, tu dois vendre ces heures beaucoup plus cher pour être rentable et les double payer en fait. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus parce que vous avez meilleur compte d'aller écouter l'épisode. Mais c'est peut-être des choses qu'on réabordera plus tard parce que je pense qu'on a des choses intéressantes à explorer là-dessus.
Ce qui est, si j'avais un conseil à donner, ça serait de dire, et c'est ce que je m'applique moi aujourd'hui, c'est straight to the point. C'est être focusé sur l'objectif de ce qu'on doit faire. Et par exemple, ça sert à rien de faire des sites avec 650 pages. Faites-en
One page.
4 bonnes pages.
Oh, une page.
Non, mais quand je
Tu
dis,
fais une page
voilà.
avec tout, quoi.
Non, mais tu fais une page, mais s'il le faut, si tu étais prêt à en faire 150, fais-en 4 déjà. Mais fais juste ce qu'il faut au bon endroit. Less is more.
Moi, la question que je me pose et tout, c'est aussi vachement influé par les personnes à qui je travaille en ce moment. Mais la question que je me pose et ma vision de la construction d'une entreprise a pas mal changé à ce niveau-là. C'est de simplement, est-ce que tu dois pas te fixer un délai de OK, j'ai réussi ou non, faut que je change d'idée. Et deux, est-ce que tu dois pas te fixer un montant à partir du moment où tu décides que là, c'est pas une question d'abandonner ou pas, mais c'est question de réfléchir à trouver une autre idée qui potentiellement sera plus rentable.
Tu peux faire un jeu de rôle?
Dans le sens où t'es pas startup, c'est ça que je veux dire. Tu vois, dans le sens où t'as pas des investisseurs
Tu
et
peux faire un jeu de rôle et te mettre dans la peau du directeur marketing ou du directeur communication d'une boîte, d'un grand groupe, alors que tu es tout seul dans ta société, et tu te dis, voilà, moi je me fixe ce budget-là, je dois faire avec. Ou je me fixe ce temps-là, ce délai-là, et tu t'imposes en fait certaines règles.
Si on finit cet épisode avec un conseil de Mélanie sur le branding pour le gars qui l'a maintenant avec sa caméra, par exemple ceux qui sont dans le programme et qui écoutent le podcast, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le premier truc.
Réfléchir à qui ils sont et pourquoi la genèse, pourquoi ils ont voulu se lancer. Je les inviterai volontiers à écrire
Leur
allez,
histoire?
10 lignes, leur histoire en 10 lignes, simplement autrement qu'avec un CV.
En fait, c'est ce que. Ben c'est marrant, c'est un exercice qu'ils ont fait dans le programme. Un genre de manifesto de qui ils sont et leurs croyances et
Exactement,
leurs valeurs.
exactement, pour faire une prise de contact rapide. Ensuite, je leur dirais effectivement de trouver, voilà, de faire un petit logo, trouver des couleurs qui leur matchent et qui leur plaisent. Et surtout, ben, d'aller effectivement travailler leurs clients et de garder à l'esprit qu'à chaque fois qu'ils ont un potentiel contact avec quelqu'un, quel qu'il soit, réseaux sociaux, mail, en direct avec une carte de visite, en serrant une main dans la rue, en passant un coup de téléphone, à chaque fois. Ils sont les représentants, les premiers représentants de leur marque, et que chacune de leurs actions, aussi bien dans la manière de parler, dans la manière de se présenter, ça servira ou desservira la construction de leur marque. Donc voilà, il faut petit à petit. On prend un petit exemple, toi par exemple chez Maximus University et sur YouTube, tu as toujours tutoyé les gens. Tu as décidé que c'était comme ça, c'était fidèle. Alors ça peut effectivement surprendre. Ça peut surprendre, mais toi tu as décidé que tu tutoyais. Et tu tutoies de partout, dans tes mails. Et donc c'est comment dire, c'est cohérent du début à la fin. Tu as décidé d'employer une tonalité. Parce que bon, on ne s'est pas étalé sur la construction d'une marque, mais il y a énormément de points. La tonalité en fait partie, le vocabulaire aussi. Et donc la manière dont tu t'exprimes, bah, c'est fidèle. Tu écoutes un podcast, une vidéo de Maximus, que tu lises un mail ou que tu ailles sur le site, on reconnaît cette
Tu
empreinte.
sais que c'est moi.
On sait que c'est toi. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que moi j'apprécie et je trouve cohérent du début à la fin. Et ça, c'est des choses qui coûtent pas grand-chose en fait. Il
Exactement.
faut juste faire attention en
C'est
fait au
l'exemple que
départ.
je donnais tout à l'heure, c'est que c'est dans chaque action que tu dois mettre en place pour faire avancer ton business d'un point de vue business pur, argent, faire entrer de l'argent, profit, vivre, qui à la fin te permet de mettre de l'argent dans la marque, mettre de l'argent dans de la recherche et développement ou autre. Chaque fois, tu te poses la question de savoir okay, comment là je peux être le plus brand compatible
Voilà, c'est
et
ça.
relevant quoi.
Est-ce que c'est compatible effectivement? Et surtout être fidèle à soi-même, garder, évoluer évidemment au fil des rencontres, au fil de écouter ce que les gens disent, écouter ce que les gens disent et savoir ne pas écouter parfois aussi, sélectionner. Parce que si on demande alors aussi si on demande l'avis, il y aura toujours des avis qui diffèrent et toujours des gens qui. Alors il y a des choses qui sont intéressantes. En fait, il faut se nourrir de ce qu'on en entend. Des fois, on entend des bonnes choses, allez hop, on prend, il ne faut pas être borné non plus.
Tu dois être sûr de toi pour pouvoir écouter les avis des autres.
Voilà, il faut être focus, mais pas borné. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez affirmer qui vous êtes et croire fortement dans ce que vous faites, mais il ne faut pas être borné non plus. Il y a des choses intéressantes qui sont dites, il faut les appliquer. Mais il ne faut pas non plus tout écouter non plus, parce que je connais aussi des gens qui changent de logo toutes les deux semaines, ouais. Qui changent d'image toutes les deux semaines. Alors, je dirais qu'ils se cherchent. Au bout d'un moment, il va falloir vite trouver quelque chose, parce que sinon, ça sera compliqué de défendre ça au quotidien.
Pour revenir à ce que tu disais, c'est assez intéressant, et je veux vraiment le mentionner, parce que c'est l'un des trucs sur lequel je mets un gros, 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 gros point dans le programme. Et pour ceux qui ont lu la page de vente du programme, ils le savent aussi, parce que c'est... On va dire que la page fait le tri. C'est que je mets énormément de valeur sur mon temps, puisque le temps, on le sait tous, c'est une valeur qu'on ne récupérera pas. On peut en racheter... en utilisant certains services qui nous permettent de ne pas perdre trop de temps, mais le temps, ça a une grande valeur, et aujourd'hui j'ai pas le temps à perdre avec des gens qui sont pas vraiment motivés, avec des gens qui veulent pas vraiment changer de vie, faire ce métier, notamment rentrer dans le programme, etc. Et des gens, il y en a qui veulent pas réussir, ils se disent qu'ils veulent réussir mais veulent pas réussir. Et le positionnement de la marque aujourd'hui, Maximus University, il est réorienté dans ce sens là mais à la base, le fait d'utiliser le tutoiement et toutes ces choses là ça me permettait déjà, à chaque petit incrément, à chaque chose que je crée, de faire le tri entre ceux qui ne comprennent pas la vision et ceux qui la comprennent. Typiquement, quand j'ai des personnes qui ont 60 ans qui viennent, qui me disent « j'aime pas qu'on me tutoie », je leur dis « bah, c'est très bien parce que c'est juste pour que c'est pas pour toi, tu n'es pas la cible et tu achètes pas, peu m'importe, mais je m'en fous de perdre de l'argent sur des gens qui, de toute façon, d'ailleurs, vont me coûter plus cher en temps, en SAV, qui vont me coûter plus cher parce qu'ils vont venir m'envoyer des mails pour me dire qu'ils sont pas satisfaits. » Et je ne veux pas de clients pas satisfaits. Ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde m'aime, et ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde aime le service. Ça veut dire que je veux éviter la négativité et les choses qui viennent, voilà, et qui viennent empêcher l'avancée fulgurante du business.
Au plus on a une cible large, au plus on veut toucher tout le monde, et au plus on veut plaire à tout le monde, au plus on va créer de l'insatisfaction et on va créer des mauvaises expériences. Cibler son audience, être capable de lui créer des codes, c'est la modeler un petit peu à sa sauce. Et c'est se donner de la chance aussi dès le départ d'obtenir peut-être davantage de bons commentaires et de bons retours qui vont encore encourager, qui vont favoriser la recommandation, faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent encore faire appel à vous, de nouveaux clients. Et après, voilà, petit à petit, vous pourrez un peu plus ouvrir.
De toute façon, on va finir là-dessus, le truc très important à comprendre. Si tu es généraliste, tu es sur le même terrain de chasse, si tu veux, que tous les autres qui sont comme toi, qui n'ont pas su prendre de décision et qui ne savent pas faire des choix difficiles.
Tu es spécialiste de rien.
Tu es spécialiste de rien du tout, donc tu ne peux pas vendre au prix que tu souhaites. Et surtout, tu es face à la concurrence absolument à tout moment. Et encore plus face à la concurrence de celui qui est généraliste et qui est le moins cher. Donc, tu es dans le pire des
voilà,
cas.
Voilà, et moi, je vais terminer sur une dernière petite phrase aussi. Une petite phrase que dit très souvent mon associé Vincent. Choisir, c'est renoncer. C'est accepter on ne peut pas tout faire. Et donc, de la même manière, on ne peut pas... La construction de sa marque, on sera obligé de faire des choix et de les assumer pour pouvoir avancer.
Et ben c'est super, parce que du coup, ça nous amène clairement à une chose super importante. C'est ceux qui veulent construire leur marque et construire leur business aujourd'hui, qui veulent créer tout simplement le business de la vidéo qui va les faire rêver et qui va les sortir du job qu'ils n'aiment plus ou, si tu as déjà un business, du business qui vivote tout juste. Si c'est ton cas, voici ce que tu dois savoir. Alors, si tu es ou si tu veux devenir un entrepreneur de la vidéo, voici ce que tu dois savoir. Si tu sens que ton job en CDI te plaît plus trop, si tout au fond de toi, tu sais que tu serais plus heureux en te levant le matin pour aller en tournage ou aller faire du montage sur la vidéo d'un client plutôt qu'aller à un job qui ne te plaît plus, que tu veux vraiment cette situation où tu fais un métier créatif et tu te lèves avec le sourire, tout ça sans avoir de patron qui te dit ce qu'il faut faire, mais que malheureusement, tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas où trouver des clients, tu ne sais pas combien facturer, tu ne sais pas qui seront tes clients, et tu ne sais simplement pas forcément tout faire, du tournage au montage, pour pouvoir réaliser une prestation professionnelle pour tes clients. Alors sache que j'ai créé l'école du vidéaste moderne. C'est spécialement pour les gens comme toi, qui veulent transitionner, qui veulent changer de vie et créer une nouvelle vie et un nouveau métier. Cette école, elle s'appelle Le Programme, et voici comment tu peux t'inscrire. Il te suffit de suivre le lien juste en dessous, ou tout simplement d'aller à l'adresse suivante, maxu.fr/PGM. Tu peux t'inscrire et te mettre ainsi sur la liste d'attente et à la prochaine session du programme, tu seras prévenu si ta candidature est retenue.
Merci d'avoir écouté le Podmax. T'as kiffé? Alors je t'invite à le partager et à mettre tout plein d'étoiles.